décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Vous l'annoncions hier, la carte blanche de Africa Radio à partir de ce vendredi, c'est une nouvelle rubrique donc qui va remplacer Décryptage que nous vous proposons désormais du lundi au jeudi dans le grand rendez-vous. Ainsi, nous retrouvons notre invité qui va commenter trois sujets de l'actualité de la semaine.
La carte blanche, Africa Radio.
Il est en direct de Manhattan aux États-Unis. Dino Sitson, bonjour.
Bonjour Liliane.
Vous êtes musicien de jazz camerounais, docteur en musicologie. Votre dernier ouvrage est Santiman et Locans dans le Guaka, deux esthétiques musicales inhérentes à l'histoire de la Guadeloupe. J'ai un peu du mal parce qu'il me semble bien que le titre, c'est en créole. Dino,
oui, voilà.
Qu'est-ce que cela signifie? Voilà. Sentiment et locance dans le Guaka.
Voilà. Sentiment, en gros, pour faire court, c'est pas en gros de l'émotion musicale, en fait. C'est le sentiment, ça peut se résumer de manière, si on veut faire un raccourci, c'est un peu ce qu'on appelle communément le feeling, quoi. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Ce que révèle le livre, c'est un peu la complexité, justement, sémantique. Ces deux termes, l'éloquence et sentiment, l'éloquence qui vient du mot éloquence, donc, mais dans un contexte, dans le cadre du chant vocal, du chant de cette musique de la Guadeloupe, qui puise sa source en Afrique en tout cas, qui est née de la déportation des Africains en Guadeloupe en fait. Voilà,
donc, on comprend qu'il faut lire le livre pour mieux se saisir de tout cela. Alors le premier sujet, Dino Sitson, c'est le CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football, dont la finale oppose dimanche le champion en titre, le Maroc et le Mali. Grosse déception pour votre pays, le Cameroun, qui accueille la compétition depuis le 16 janvier dernier.
Exactement. Grosse déception, évidemment, parce que, étant Camerounais, donc, voilà, moi, j'espérais, je croyais que la Coupe allait rester chez nous, quoi, bien rester au Cameroun, mais bon, on va tout faire pour rebondir un peu, peut-être pour la prochaine fois, pour la CAN qui se présente pour l'année prochaine, si je ne me trompe pas, en 2022.
Oui.
Peut-être qu'on fera mieux, quoi. Donc, voilà, mais c'est vraiment.
Vous espérez au moins peut-être la troisième place, puisqu'il y a la petite finale qui va opposer les Lions Indomptables aux Guinéens.
Aux Guinéens. J'espère bien. Je crois qu'on va gagner quand même cette fois-ci. Quand même. Nous sommes des Lions, quand même, après tout.
Indomptables. Deuxième sujet, Dino, c'est Biden qui a pris le pouvoir depuis son investiture le 20 janvier dernier aux États-Unis où vous résidez. Plusieurs mesures de rupture avec Trump, son prédécesseur, que vous avez salué en d'autres occasions. Mais là, on attend le président Biden sur un autre dossier, celui des Algériens, des parlementaires algériens qui lui ont écrit à propos du Sahara occidental, ce territoire disputé entre le Front Polisario et le Maroc, et sur lequel Trump a reconnu la souveraineté du Maroc contre la légalité internationale.
Oui, c'est vrai que les deux chambres du Parlement algérien ont rédigé une lettre à Joe Biden pour qu'il revienne sur la décision de son prédécesseur sur le Sahara occidental. C'est assez délicat pour l'instant, parce qu'on s'attend à ce qu'il fasse un retour peut-être, enfin, à part les Algériens surtout qui soutiennent traditionnellement les indépendantistes du Front Polisario. On ne sait pas à quoi s'attendre véritablement, mais je pense que
on attend de voir comment va réagir l'administration Biden face à ce dossier.
Ouais.
Et rapidement, le dernier sujet avec vous, Monsieur Dino Sitson, c'est le vaccin russe, hein, qui jusque-là semblait un peu snobé par les Européens, Sputnik V, qui pourrait être autorisé et administré en Europe. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le ministre français des Affaires étrangères. Il a affirmé qu'il n'y avait aucun blocage en France pour l'utilisation de ce vaccin.
Mais c'est un bel aveu vraiment de la part des autres pays européens, en tout cas de faire preuve, enfin l'Europe qui a toujours fait preuve d'arrogance vis-à-vis de la Russie très souvent, et de savoir que voilà, ce sont des personnes qui ont un potentiel extraordinaire, qui ont des talents inouïs, qui sont même enviés par le reste du monde. Voilà, de savoir que voilà, qu'il faut un peu d'humilité. Écoutez aussi tous ces pays-là qui proposent d'autres alternatives au fameux vaccin, à la pléiade de vaccins que nous avons aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on en a, on ne sait plus avec lequel le... fonctionner, mais au moins ça.
Venant de la revue de Pfizer, Moderna, oui.
Moderna, Pfizer et autres, j'en passe. Mais je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. Et c'est une preuve que voilà qu'il faut que ça s'estompe un peu cette arrogance vis-à-vis de la Russie.
Mais il faut dire qu'il y a eu le, je ne sais pas si je vais parler de coup de pouce, mais le coup de pouce de la revue, de la très respectée revue The Lancet, quand même, qui a permis que l'Europe revoie sa position sur ce dossier, a fait évoluer la position de l'Europe.
C'est ça surtout, parce que c'est une revue scientifique de renom qui a pignon sur rue et qui a en son sein des gens qui sont assez pointus dans le domaine de la médecine, en tout cas dans ce domaine-là qui concerne la santé. Et je crois que l'écoute, le discours tenu par les autres pays par rapport à ce Sputnik V est révélateur de beaucoup de choses.
Merci.
Le discours a été crédibilisé par cette revue-là, surtout.
La revue même.
Une bonne chose.
Indépendante.
Par la revue même.
Merci beaucoup à vous, Dino Citizen, d'avoir été notre premier invité de cette rubrique, donc à laquelle nous vous invitons à vous habituer désormais le vendredi. La carte blanche de Africa Radio, nous recevrons donc chaque vendredi à cette heure-ci un invité qui va commenter trois sujets de l'actualité de la semaine avec nous. Et on va tout de suite retrouver nos invités qui sont en ligne pour le grand rendez-vous.
Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Nous allons parler ce soir des candidatures déclarées à la présidentielle du Bénin. Ils sont 20 à avoir déposé leur dossier à la commission électorale jeudi, c'est-à-dire hier soir, précisément à la Sénat. Et nos invités sont tous à Cotonou. Maryse Glegle Aranranzo, coordonnatrice nationale de l'ONG WANEP Bénin, le West Africa Network for Peace Building à Cotonou. Madame Aranzo, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Merci.
C'est Maryse Glegle Aranzo.
Maryse, allez-y, prononcez voir s'il vous plaît.
Glegle Aranzo.
Madame Glegle.
Oui, Glegle, oui, exactement.
D'accord. Merci madame et pardonnez-moi d'avoir écorché votre nom. Distel Amoussou, vous êtes là?
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs de Radio Africa.
Merci à vous d'être en direct avec nous de Cotonou, directeur général civil de ADLSS. C'est l'agence de documentation, de liaison et de services spéciaux et vous faites la promotion du gouvernement béninois. Nous avons également le plaisir d'accueillir monsieur Donklam Abalo, porte-parole de l'USL. Monsieur Abalo, bonsoir.
Bonsoir à vous, madame. Bonsoir à tous les auditeurs de Africa Radio.
Merci. L'USL, qui est l'Union sociale libérale, le parti de l'opposant Sébastien Ajavon. 20 candidats donc déclarés à la présidentielle du 11 avril prochain, malgré les difficultés et critiques relatives à la nouvelle loi électorale. On peut dire que malgré tout, la présidentielle fait courir les Béninois, madame Aranzo.
Est-ce qu'elle fait courir les Béninois? Je dirais plutôt qu'elle intéresse toujours les Béninois. Vous savez, depuis toujours, la période électorale a été des périodes très festives où la démocratie est vraiment en marche au niveau du Bénin. Et c'est vraiment la période où les populations aiment bien écouter les discours des différents candidats, les arguments des différents candidats, etc., etc. Donc, je pense que les Béninois demeurent encore attachés et veulent retrouver cette festivité électorale que nous avions connue dans le temps.
Monsieur Abalo, l'USL, précisons-le, ne prend pas part à cette élection, sauf si je me trompe, et vous me corrigerez dans ce cas, parce que vous avez estimé que les conditions d'une élection transparente ne sont pas réunies. Quand on écoute toutes les critiques qui ont eu cours et qu'on a entendues sur la nouvelle loi électorale, est-ce qu'on ne peut pas être un peu surpris du nombre de candidats déclarés à cette présidentielle?
ne faites pas attention au nombre de candidats déclarés à cette élection présidentielle. Sur ça, on peut faire débat. Mais ensuite, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment eu d'intérêt pour cette élection présidentielle. De mémoire de Béninois, c'est pour la première fois que nous remarquons autant de cafouillage et de cacophonie dans une élection présidentielle. Le désintérêt est total. Vous verrez que sur les 20 candidats, il y a au moins 18 qui se sont présentés sans parrainage. Voyez-vous, donc en fin de compte, vous verrez peut-être deux tickets qui vont se rencontrer, ou au plus trois. Et donc à partir de cet instant, personne ne peut parler d'intérêt pour l'élection présidentielle. Ensuite, la réforme du système partisan, le diagnostic qui a été fait au départ, était qu'aucun parti politique n'a réussi à faire élire un président de la République depuis 30 ans. Mais vous constatez maintenant que pour la plupart des candidats, à commencer par le chef de l'État lui-même, eh bien, il ne vient pas d'un parti politique. Il ne vient pas d'un parti politique, parce qu'à la date d'aujourd'hui, personne ne peut nous dire de quel parti politique le président est.
Mais il compte néanmoins une majorité à l'Assemblée nationale.
Non, mais nous avons toujours contesté cette majorité. Il ne compte pas une majorité, il a l'entièreté de l'Assemblée nationale. Il a 83 députés sur 83. Et donc ça, ce n'est pas de la démocratie, ce n'est pas de la séparation des pouvoirs. Et donc, vous savez dans quelles conditions l'élection législative a eu lieu. Et nous l'avions déjà contesté, nous autres, depuis le départ. Et depuis le 9 décembre 2020, l'USN a dit clairement qu'elle n'est pas intéressée par cette élection tant que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne seront pas respectées. Et ces décisions-là font tomber l'architecture légale. Ces décisions font tomber, donc, l'élection législative. Cette décision, les décisions de la Cour font tomber, eh bien, toute la réforme politique. À partir de cet instant, pourquoi vous voulez qu'on aille à des élections qui n'ont plus aucun intérêt, ni pour les Béninois, ni pour nous? C'est ça le vrai problème. Donc, madame, je peux vous dire qu'il n'y a eu aucun engouement sur cette élection. Personne ne s'y est intéressé. On a eu peut-être droit à un folklore, à un théâtre, où vraiment, finalement, c'est beaucoup de honte, vu qu'on constate que le Bénin en est à ce point-là aujourd'hui.
Monsieur Amoussou, vous partagez l'avis de monsieur Abalo sur le fait que malgré les 20 candidatures déclarées, il ne s'agit pas d'un engouement, et que finalement, même si on peut parler d'engouement, mais à la fin, on ne verra pas grand monde la liste sur le départ.
Ben écoutez, vous n'imaginerez pas que je vais valider cette lecture de mon ami et frère, donc là, Abalo. Moi, si diriger son pays est un service, je crois qu'il est aussi un devoir citoyen. Et vous avez compris que avec la réforme du système partisan, les grincements de dents qu'il y a eu, il se trouve, à tort ou à raison, nombre de Béninois pour s'intéresser au service, s'intéresser à se mettre au service de son pays. Voyez-vous, donc, à partir de ce moment-là, l'engouement se dénote même beaucoup plus dans le camp de l'opposition. Parce que la mouvance présidentielle, globalement, n'a présenté qu'un seul candidat, avec sa colistière. Je vais parler de Patrice Talon et sa colistière. Et par contre, sur les 20 candidatures que vous citez, il y a 5 qui sont l'émanation de la plus populaire, je vais dire, du parti de l'opposition qui regroupe le pléthore de mouvements politiques ou de formation politique aujourd'hui qui s'appelle les démocrates.
L'ancien président Boni Yayi,
20 et 5 candidatures proviennent de cette chapelle politique. Donc l'engouement même pour
j'imagine que vous comptez aussi, vous y mettez aussi les candidats présentés par FCBE, les forces Kori, pour le Bénin émergent.
Même pas.
La faction dissidente.
Nous pouvons les citer. Même pas. Je dis 5 candidatures, c'est-à-dire que 5 militants des démocrates ont individuellement déposé leur candidature. Outre que la candidature de FCBE, qui est le parti anciennement dirigé par
Boni Yayi.
Thomas Boni Yayi. Voyez-vous. Alors, c'est pour vous dire
donc pour vous, cette affluence, est-ce que vous appelez l'affluence ou on peut aussi dire engouement, est synonyme de l'intérêt que l'opposition porte à ce scrutin? C'est aussi synonyme de la bonne marche de la démocratie béninoise?
Et c'est à cela que le discours même de la classe politique de l'opposition est flou
reste flou à ce jour. Parce que cette classe politique aujourd'hui en lambeaux peut être, mettons, analysée en trois volets. Le premier, il y a évidemment l'aide ISL de M. Sébastien Adjavon, qui se dit bailleur et qui se dit détenteur de la force économique de l'opposition. Mais lorsque cette force économique n'est pas associée, n'est-ce pas, aux activités de l'opposition, elle se met en marge et laisse en naufrage le reste des forces politiques de l'opposition.
Merci.
Il y a également les forces politiques représentées ou qui sont autour de l'ancien président Pony Yayi, qui, elles, se disent les forces les plus populistes, donc les plus populaires. Et que c'est elles qui disposent du grand nombre d'effectifs de Béninois à l'heure au sein de leur chapelle.
Merci.
Et lorsque...
Terminez, monsieur Amoussou, il faut qu'on écoute les autres.
J'en aurai fini lorsque je vous dirai qu'il y a donc l'engouement après les grincements de dents qui s'est installé au niveau, que ce soit de l'opposition de la mouvance, mais on observe avec le chiffre 20, que le nombre 20, que beaucoup plus de candidatures sont venues de la part de l'opposition.
Madame Aranzo, est-ce que vous pensez, comme le dit monsieur Amoussou, que malgré tout, on assiste à un véritable engouement, et aussi malgré ces candidatures déclarées, on se rend compte que ces candidats ont eu beaucoup de mal à boucler leur dossier. Il y a des problèmes de parrainage, d'autres n'ont pas présenté de colistiers. Il y a aussi cette question de sanction, de caution de 50 millions de francs CFA. On n'est pas sûr que tout le monde a versé cette caution. Est-ce qu'à la fin, on aura finalement autant de candidats définitifs que déclarés?
Non, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ça. À la fin, on est toutes les 20 candidatures enregistrées, que telles, toutes soient validées. Déjà, techniquement, ce n'est pas possible si on considère la loi sur le parrainage qui parle de 10% de parrains, et nous connaissant le nombre de parrains que nous avons, on devrait s'attendre, si aucun duo, aucune candidature n'excède les 10%, on devrait s'attendre à avoir 10 candidatures maximum. Donc, il faut s'attendre à ce que 10 au moins tombent dans les 20 qui sont là. Maintenant, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il y en a eu qui se sont présentés sans policier. Il y en a eu qui, on se demande si le nombre de parrainages requis est là. Donc, il faut vraiment s'attendre à ce que toutes ces candidatures enregistrées ne soient pas validées à la fin.
Dans certains engouements, on va dire apparent, beaucoup déposent leur dossier sachant très bien que, en fin de compte, ils n'ont pas de chance d'être retenus parce que leurs dossiers auront été incomplets.
On ne peut pas parler d'engouement d'engouement plaisant. En griffe, je le mets comme ça. Mais il faut quand même noter une volonté d'éprouver la loi, ou une volonté de ne pas baisser les bras, une volonté de cette opposition. On peut le lire de cette façon, une volonté de cette opposition de ne pas baisser les bras malgré les différents obstacles qu'il y a sur le chemin. Et donc d'aller quand même, c'est-à-dire on sent cette volonté d'aller aux élections, cette volonté de participer aux élections, cette volonté de participer à la gestion des affaires publiques, de ne pas être écarté purement et simplement comme ça a été le cas pour les autres élections. Donc on peut parler.
Donc vous voulez peut-être dire que l'opposition y va, ou ces candidats y vont sans véritablement y croire, compte tenu de tous les obstacles dont vous venez de parler, c'est-à-dire le parrainage, le problème de colistier et aussi de la caution?
On peut en faire cette analyse, parce que de tout temps quand même, cette opposition a contesté les lois qui ont mis en place cette disposition-là. Et quand on réécoute les déclarations de certains membres de cette opposition quand ils ont déposé les candidatures, c'était vraiment cette envie de ne pas baisser les bras, cette envie de dire on est là, on va aller jusqu'au bout malgré les différents obstacles pour éprouver la loi, pour montrer qu'on a la volonté de participer, mais c'est les obstacles que la loi a mis sur notre chemin qui ne nous ont pas permis d'aller jusqu'au bout et de tenir nos ambitions.
Merci madame. On marque une pause, ensuite on écoutera évidemment monsieur Abalou.
Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelles sont les chances des 20 candidats déclarés à la présidentielle au Bénin de voir leur dossier validé par la Sénat et ensuite par la Cour constitutionnelle? Nous en débattons ce soir avec Distel Amoussou, directeur général civil de ADLSS, l'agence de documentation, de liaison et de services spéciaux, qui travaille aussi pour la promotion du gouvernement béninois. Maryse Glele-Aranzo, coordonnatrice nationale de l'ONG WANEP Bénin, et donc Clam Abalo, porte-parole de l'USL, l'Union sociale libérale, de l'opposant Sébastien Ajavon, que nous allons écouter maintenant pour réagir à ces propos de Mme Aranzo, qui disait, M. Abalo, que l'opposition semble avoir une réelle volonté de participer au processus électoral, de ne pas en être exclue. Mais est-ce que vous avez le sentiment que, finalement, cette envie va se traduire dans les faits?
Non, mais d'abord, je voudrais vous faire remarquer toute la gymnastique que mon ami Distel Amoussou fait pour montrer l'engouement à cette élection. Vous voyez, on dit qu'il n'y a pas de candidature individuelle, mais mon ami va chercher des militants individuels des démocrates pour justifier qu'ils sont 5. Vous voyez, cette façon, cette gymnastique de vouloir montrer qu'il y a eu un engouement, alors que les démocrates ont présenté leur ticket réglementairement, il n'y a que les démocrates. Donc, c'est pour vous dire qu'eux-mêmes ne sont pas tranquilles. Voyez-vous, l'information c'est quoi? C'est que le ticket du président de la République a 118 parrains sur 159. 118 parrains. Le ticket de FCBE a 20 parrains. Donc, il ne reste plus que 21 parrains. Et donc, il n'y aura plus qu'un troisième ticket. Et ce troisième ticket sera décidé également par M. Patrice Talon, qui est le parrain des parrains, puisque c'est lui qui est le président de la République et qui a tous les parrains. Tous les parrains, madame. Alors, dans un système pareil.
Et si on va aller jusqu'au bout de votre logique, à qui donc sera destiné le troisième ticket?
Mais c'est le président qui va décider. Parce que, curieusement, nous sommes dans un système où ce sont les parrains qui recherchent des candidats.
Donc, de votre point de vue, il y aura trois candidats à cette présidentielle.
Si le président le veut. Maintenant, si le président ne le veut pas, il y aura deux. Il y aura deux tickets.
C'est-à-dire lui et le FCBE.
Mais et absolument. Le FCBE. Parce que les autres ont manifesté leur volonté d'y aller, mais ils ont déposé des dossiers sans parrain, parce que ce n'est même pas logique que l'opposition se fasse parrainer par des élus de la mouvance.
Mais le président Talon a dit à maintes reprises qu'il faisait tout pour que l'opposition puisse participer à ce scrutin.
Mais ce n'est pas au président de la République de le faire. Ce n'est pas au président de la République de tout faire pour que l'opposition aille aux élections. C'est encore la preuve que c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui... Mais il y a une Sénat. Il y a une Sénat qui organise des élections. Depuis quand vous avez vu un président aller sur le terrain promettre que l'opposition ira à des élections?
Mais en même temps, M. Abalo, vous, par exemple, à l'USL, oui, vous avez décidé de ne pas aller aux élections depuis longtemps, mais il y a d'autres partis d'opposition qui ont décidé d'y aller, les démocrates et dans une certaine mesure les FCBE, qui malgré les critiques se positionnent, disent se positionner en tout cas, comme un parti d'opposition. Donc, pourquoi les autres n'ont pas fait le choix? Pourquoi d'autres... certains de vos amis de l'opposition n'ont pas fait le choix, comme vous, de ne pas y aller. S'ils y sont allés, ça veut dire qu'ils en acceptent les règles,
mais,
non?
Mais, peut-être que vous auriez pu les inviter. Moi, je ne parle pas leur nom. Je parle au nom de l'USL qui a fait son choix depuis. Mais pour nous, les jeux sont pipés depuis. Et quand vous parlez des FCBE, tout le monde sait que c'est un troisième bloc du président de la République. Et ça, c'est de l'autorité publique. Tout le monde le sait.
Mais en tout cas, le FCBE se positionne comme parti d'opposition.
Non, mais ils ont les parrainages du pouvoir en place.
Mais parce que ceux qui auront le parrainage du parti au pouvoir seront forcément des alliés du pouvoir.
Mais absolument.
Ça veut dire que si les démocrates ont les parrainages du pouvoir, ils seront aussi considérés comme le FCBE, donc alliés du pouvoir.
Mais les démocrates n'auront pas le parrainage du pouvoir, justement. Les démocrates n'auront pas, et c'est pour ça qu'ils ont déposé leur dossier sans parrainage. Mais ce sont les parrains qui courent derrière les candidats. Vous avez vu ça quelque part? Ce sont les candidats, normalement, qui devraient aller à la recherche de parrains. Mais au Bénin, c'est le contraire. Ce sont les parrains qui sont tous de la mouvance qui veulent parrainer des candidats de l'opposition. Mais c'est incongru. Et lorsqu'on parle de ça, certains défendent des choses incroyables. Nous, on a déjà compris depuis le début que les jeux étaient pipés, que les lois ces lois étaient des lois exclusives, que ces lois n'étaient faites que dans le dessein de donner un deuxième mandat au président de la République sans compétition. Et c'est nous qui avons raison à la fin, parce que vous vous rendez compte que rien, ça ne sera jamais transparent. Le président de la République ne facilitera jamais des élections transparentes. Eh bien, dans tous les cas de figure, ce qui se fait là est une parodie d'élection. Et Merci. Nous, à l'USL, nous avons pris nos responsabilités depuis le début. On ne peut pas s'associer à ce type d'activité. Pour nous, c'est un recul grave. Merci. Il faut vraiment avoir mal pour la démocratie au Bénin.
Monsieur Amoussou, l'opposition, en tout cas l'USL ici, se dit convaincue que de toute façon, le scrutin ne sera pas transparent. Est-ce que cela déjà ne jette pas un discrédit sur le processus, quelle qu'en soit la décision de la Sénat et de la Cour constitutionnelle qui vont justement, ces deux organismes qui vont décider du sort des candidats déclarés?
Madame, vous percevez vous-même dans quel camp se retrouve le discrédit, puisque vous avez posé une belle question tout à l'heure en demandant à mon frère et ami qui, entre-temps, a oublié que le scrutin présidentiel n'implique pas la présence des partis politiques, mais que c'est plutôt des individus qui vont à la quête, n'est-ce pas, du suffrage des concitoyens. Mais vous lui avez demandé pourquoi est-ce que les autres forces de l'opposition n'ont pas observé la même position que l'USL. Il n'a pas voulu vous répondre, et moi je vais vous je vais vous répondre. Oui, l'USL ne participe pas aux élections parce que Sébastien Adamon, qui en est le promoteur, est en disgrâce avec la justice béninoise. Et par conséquent, et s'il n'est pas là, c'est le déluge. C'est sa position, et ça a toujours été sa position.
Mais qui a été, on peut dire, réhabilité par la Cour africaine des droits de l'homme?
Ça, c'est encore un autre débat. C'est encore un autre débat. Par contre, les autres forces politiques de l'opposition pensent et continuent de penser qu'il va, n'est-ce pas, mener le combat sur le terrain de la loi et gagner, n'est-ce pas, les élections. Et je crois qu'il faut les y encourager. Sauf que, elles-mêmes, leur attitude n'est pas claire, simplement parce que vous ne pouvez pas décider et de respecter un pan d'une loi entière. Parce que lorsque vous acceptez le principe de présenter un ticket, c'est-à-dire en répondant à la nouvelle disposition légale qui régit l'organisation de la présidentielle de 2021, en présentant un duo, lorsque vous acceptez d'aller à la Sénat avec un duo et de présenter un ticket, ça veut dire que vous validez la loi électorale. Vous ne pouvez pas, au même moment, n'est-ce pas, vous soustraire au second plan de cette loi qui impose le parrainage. Alors, il y a une ambiguïté, pour ne pas dire une incongruité, dans la démarche de nos vis-à-vis. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que la démocratie béninoise, en réalité, a atteint son niveau de bonification. Et les feuilles mortes sont en train de tomber d'elles-mêmes. C'est ça qui est la réalité. Parce qu'une loi reste une loi. Et l'organisation des élections dans un pays relève du domaine de la loi.
Merci.
Et nos amis, ils le savent. Ils le savent. Puisqu'ils ont mené la démarche, ils ont présenté, n'est-ce pas, un ticket, c'est-à-dire un duo. Et même à leur propre sein, pendant 4 jours, ils n'ont pas dormi. Parce qu'il était question de planifier les ambitions de part et d'autre. Et c'est parce qu'ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, se satisfaire eux-mêmes ou satisfaire leurs propres militants, qu'en leur propre fait, outre le ticket officiel qu'ils ont présenté, c'est-à-dire Dame Rékias Mabou et un autre, mais il s'est trouvé d'autres.
Patrick Yves Divo.
Voilà. Il s'est trouvé d'autres militants de leur parti pour présenter d'autres tickets, n'est-ce pas, pour le même scrutin. Et on me dit qu'il n'y a pas d'engouement. On me dit que je fais de la gymnastique pour prouver ce qui est quand même si évident.
Merci.
Oui. Mais si on veut respecter, n'est-ce pas, une loi qui est entière, on la respecte intégralement. Et c'est pour ça que certaines candidatures vont tomber de fait. Parce qu'en réalité, selon l'intervention de la présidente du WADEP Bénin, oui, lorsqu'on fait les calculs, c'est maximum une dizaine de candidatures que nous devrions avoir. On en a fait aujourd'hui.
Merci.
Donc, automatiquement, 10 vont tomber. Mais dans le lot également, il y en aura qui vont tomber parce qu'il y a
candidature farfelue.
Merci, Monsieur Amoussou. Madame Ahanzo, quand on écoute les deux intervenants, ça veut dire qu'on est parti pour avoir très peu de candidats à cette présidentielle. Comment voyez-vous d'ailleurs le travail de la Sénat et de la Cour constitutionnelle qui vont devoir trancher sur ces dossiers?
Ça, c'est une question qu'il faut peut-être adresser à la Sénat et à la Cour constitutionnelle.
Vous êtes de la société civile, donc je préfère vous poser la question plutôt que deux responsables politiques ici qui ont des avis assez tranchés. Mais vous, objectivement, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, les difficultés, nous les avons recensées et elles sont là, mais il faudrait bien que la Sénat tranche valide ou invalide des candidats. Est-ce que vous pensez que ça va être une vraie équation ou bien ça va être facile de sortir, d'éliminer les dossiers facilement comme ça parce qu'ils n'ont pas rempli le dossier, ils n'ont pas rempli les conditions, pardon?
Je suis sûre que la Sénat elle-même et la Cour constitutionnelle sont conscientes de ces difficultés-là. Vous voyez, la société civile voyait un peu venir ces débats-là en avance et dès que le système du parrainage a été instauré, la société civile a fait ce qu'elle a pu. Elle a dénoncé un certain nombre de choses, elle a alerté sur un certain nombre de débats, sur un certain nombre de points qui n'étaient pas très clairs. Dès que la Sénat a fait son annonce ou a partagé sa compréhension de l'opérationnalisation du parrainage, la société civile aussi a noté, disons, cette absence même de loi qui fixe de façon claire et transparente les modalités de mise en œuvre du parrainage, si tant est que ce parrainage était retenu. Le minimum était qu'il y ait quand même, comme le dit la Constitution, l'article 44 a été très clair de la Constitution qui instaure le parrainage, dit qu'il y aura des conditions et les modalités doivent être fixées par une loi. À ce jour, il n'y a aucune loi qui fixe les modalités de mise en œuvre du parrainage. Et c'est ça qui amène tout ce flou-là. Si bien que tout ce qui, disons que tout ce qui est comme opérationnalisation du parrainage aujourd'hui est soit décidé par la Sénat, soit par les partis politiques, voyez-vous. Et c'est ça qui fait que on va voir, on est là, on observe, on verra quels sont les critères, les paramètres qui vont par lesquels la Sénat,
Sénat va trancher. Justement, parlant de paramètres et de critères, est-ce que vous ne pensez pas, compte tenu de ce que vous-même vous venez de décrire, les contestations qu'il y a eu et l'alerte, vous avez dit, de la société civile sur les difficultés qu'il y aura pour les candidats de remplir les conditions, est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un risque pour la Sénat puis la Cour constitutionnelle d'ignorer un peu le droit et la loi électorale pour faire valoir plutôt des arguments politiques dans l'examen de ces candidatures? Madame?
Je ne saurais répondre à cette question et n'étant pas à la place de ces institutions. Tout ce qu'on a eu à faire ressortir, c'est qu'en l'absence d'une loi, s'il y aurait eu des conditions claires, des modalités claires, transparentes, connues de tous à l'avance, que le jeu aurait été clair et puis il n'y aurait même pas à hésiter. On sait qu'un duo peut présenter au maximum un certain nombre de parrainages ou au minimum un certain nombre de parrainages, etc., etc. Donc, même à la Sénat, on attend de voir sous quelle forme va se faire la validation. Est-ce que la Sénat, en définitive, va mentionner le nombre de parrainages recueillis par chaque duo? Est-ce que donc c'est vraiment un flou dans le... Et on a toutes les décisions, tous les recours qui ont été vers la Cour constitutionnelle concernant le principe du parrainage, tout systématiquement ça a été rejeté ou la Cour s'est déclarée incompétente. Donc, on espère qu'il n'y aura pas paralysie. On attend de voir à chaque pas comment est-ce que les difficultés seront réglées par ces deux institutions. Voilà. Mais avec une fois encore, l'alerte que plus on s'approche du jour du scrutin, plus on s'approche de certaines dates très délicates ou très sensibles dans le calendrier.
Puisqu'il y a les délais, il y a les délais. Voilà,
les tensions sont vivaces et plus il y a des risques quoi.
Il y a des risques des élections tendues.
On est déjà dans les élections tendues, si je peux m'exprimer.
Merci madame, on marque une dernière pause et la suite dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Les 20 candidats déclarés à la présidentielle au Bénin seront-ils finalement candidats partant le 11 avril prochain? Et c'est de cela que nous parlons ce soir avec Maryse Glele-Aranzo, coordonnatrice nationale de l'ONG WANEP Bénin, donc Clam Abalo, porte-parole de l'USL de l'opposant Sébastien Ajavon, et Distel Amoussou, directeur général civil de ADLSS, une agence qui fait la promotion du gouvernement béninois. Nous allons vous donner la parole, monsieur Amoussou. Quand vous écoutez les intervenants parler de cette difficulté qui s'amoncelle sur le chemin des opposants, on se dit que mais finalement, il n'y aura personne pour être un vrai adversaire devant Patrice Talon, puisque, sauf surprise, sa candidature devrait être validée, puisque d'ailleurs, les ressortissants de sa localité d'origine ont payé sa caution.
Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que on va trouver des sous-béninois ou des béninois de moindre valeur. Parce que Talon, il est béninois. Les autres, n'est-ce pas, candidats ou les autres personnes qui sont sur les tickets des autres partis politiques sont également.
Oui, mais je dis parce que certains intervenants viennent de dire que les deux autres viennent de dire, notamment M. Abalo, que le FCBE est un allié du président et que de toute façon sa candidature devrait passer puisqu'il a les parrainages. Donc, quels seront finalement les adversaires sérieux pour vraiment être une menace pour Patrice Talon dans ce cas-là?
Alors, au nom de quoi vous mesurez le sérieux de tel candidat ou le non-sérieux de tel autre candidat? Écoutez, le ticket présenté par la FCPE, c'est un ticket composé de Béninois valables, capables de pouvoir diriger le Bénin. Parce qu'il y a 10 ans derrière, il y a 20 ans derrière, personne n'a su que Patrice Talon pouvait être devenu un jour président de la République. Et il y a des années antérieures, personne ne peut préjuger de la capacité de tel ou tel autre à diriger son pays parce que c'est un service et c'est un devoir citoyen. Donc je ne dois même pas qu'on pense, n'est-ce pas, humilier d'autres Béninois en pensant qu'ils sont des sous-Béninois ou qu'ils soient aux ordres.
Donc vous voulez dire que quels que soient les adversaires ou bien les candidats qui seront retenus pour l'élection du 11 avril prochain, ce sera une vraie bataille face à Patrice Talon? Il y aura un vrai combat politique?
C'est des Béninois et le combat sera politique âprement disputé. Par contre, je voudrais souligner que certaines classes politiques de l'opposition sont en résidence d'écriture de psychodrame politique parce qu'en réalité, refuser, n'est-ce pas, d'aller aux élections et de chercher à désinguer la charpente, n'est-ce pas, organisationnelle et fonctionnelle de l'élection est un mauvais choix. Ce n'est pas un choix citoyen, n'est-ce pas, ou accepter d'aller, de valider les lois électorales, de présenter un ticket, c'est-à-dire un duo, et de se rebiffer quand il s'agit, n'est-ce pas, de la conquête du parrainage, il y a une absurdité. C'est pour dire que les Béninois doivent pouvoir savoir, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, que servir sa nation est un devoir citoyen. Ce n'est pas une question d'intérêt personnel. Et ça, il faudrait que nos compatriotes puissent l'intégrer.
Merci beaucoup. Monsieur Abalo? Allô?
Personne n'est dupe, hein? Personne n'est dupe. Vous-même, vous pouvez constater que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de compétition. Le président Patrice Talon disait au départ, il y a 4 ans, qu'il était un compétiteur né. À l'arrivée, nous nous rendons compte qu'il fuit la compétition. Et contrairement à ce que M. Distel-Amoussou est en train de dire dans le camp du président, ils sont même déjà en train de parler d'un chaos. Eux-mêmes parlent déjà d'un chaos au premier tour.
Coup chaos dès le... Voilà.
Mais bien sûr, à 68%, ils donnent même des pourcentages. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeu est fait à leur niveau.
Mais
donc, nous ne sommes pas dans une élection, nous sommes dans une parodie d'élection.
C'est caractéristique des hommes politiques. Personne ne peut avouer sa défaite en allant au combat.
Il n'y a aucun concurrent face au président de la République parce que tous les tickets sont parrainés par des élus du camp de la mouvance. Ça ne répond à aucune logique. Nulle part au monde, ça ne se voit.
Mais vous parlez du problème de ticket, mais il y a aussi cette caution que certains ont du mal à payer de 50 millions. Non. Si Patrice Talon a pu avoir une enveloppe d'une délégation, dit-on, des fils et filles de sa ville d'origine Ouida.
Madame, voilà encore une autre incongruité de la réforme du système partisan. Dans la réforme du système partisan, on dit clairement qu'on finance les partis politiques qui présentent des tickets. Mais on a financé des partis politiques à hauteur de plusieurs milliards, il y a quelques mois seulement. Et le président vient accepter maintenant que des individus, une communauté, lui qui est garant de l'unité nationale, il accepte qu'une communauté, soi-disant frères et sœurs de Ouida, vienne payer sa caution.
D'autres candidats peuvent également bénéficier du soutien de leur communauté. Est-ce que cela est interdit?
Non, mais c'est diviser le pays que de fonctionner comme ça. Ce ne sont pas les communautés qui payent les cautions des candidats. Ce sont les partis politiques qui payent les cautions de leurs candidats. C'est ce que la réforme du système partisan, qu'ils ont eux-mêmes inventé, a dit. Mais ils ont financé les partis, ils ont donné plusieurs milliards à leurs partis politiques. Ils ont fait quoi avec l'argent? Et ce sont les communautés qui viennent payer la caution de leurs candidats? Vous trouvez que c'est normal? Non, nous ne sommes pas...
Ce n'est pas d'opinion, évidemment, mais j'exprime les faits tels qu'ils sont là.
Mais tout est fait à l'envers, au Bénin. Tout est fait à l'envers. C'est dépassé qu'une communauté vienne payer la caution de candidat. C'est le parti politique qui présente le ticket, qui paye la caution de son candidat.
Donc, pour vous, on va indiscutablement vers la victoire sans bataille de Patrice Talon?
Pour nous, il n'y a pas de compétition. Et nous avons aujourd'hui un dispositif, une décision qui nous montre que même ces élections ne seront pas reconnues. Ce n'est pas possible que ce soit reconnu, puisque aucune décision...
Reconnue par qui?
Elle ne sera
pas reconnue par qui?
Même la communauté internationale, nous ne reconnaîtrons pas au niveau de l'USL. Merci. Nous ne reconnaîtrons pas cette élection. La communauté internationale ne la reconnaîtra pas non plus, parce que nous sommes fondés à ne pas reconnaître ça.
Merci.
C'est une parodie d'élection.
Madame Ahanzo, c'est également votre avis que, quel que soit le cas, il ne faudrait pas que la communauté internationale et les Béninois acceptent les résultats de ces élections, de cette élection présidentielle, parce que elle est entachée, sa crédibilité est remise en cause ou sera remise en cause. Allô, madame? Madame Ahanzo? Il nous semble qu'on l'a perdue. Monsieur Amoussou? Je suppose que pour vous, le débat ne devrait pas se poser. On devrait forcément... Vous dites que le processus sera crédible, quelle qu'en soit l'issue.
Évidemment, parce que vous percevez dans la débâche de mon ami et frère, donc Clément Ballo, que tant qu'il n'y a pas de Sébastien Adjavon sur la liste, c'est que tous les autres Béninois sont des sous-Béninois de petits hommes.
On ne parle pas de Sébastien Adjavon, mais on parle des conditions d'examen de candidature et de la tenue de cette élection. Vous-même, vous êtes d'accord qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui ont été recensés, qui se dressent sur le chemin des candidats déclarés, qui pourraient voir tous leurs dossiers rejetés, à l'exception peut-être de deux ou trois d'entre eux.
Quels sont ces obstacles, madame? Vous comprenez que l'organisation des élections relève du domaine de la loi. Et il y a une loi, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui juge de son applicabilité. Ce qui est clair, c'est que les institutions chargées de l'organisation de ces élections-là sont avisées et sont en train de dérouler leur chronogramme. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas encore eu d'alicroche. Voyez-vous, il n'y a pas encore eu d'alicroche, puisque hier, les candidats, les Béninois qui ont eu le désir, n'est-ce pas, de diriger notre pays, ont déposé leur ticket. Voyez-vous?
Merci.
Donc, on ne va pas faire de la pression, n'est-ce pas, du drame. Non. On ne va pas faire de la prévision, c'est la projection du drame. Et c'est ce que fait allègrement mon cher ami, ton club à Palo.
Donc vous estimez qu'ils exagèrent. Madame Aranzo, monsieur Amoussou estime que vous exagérez quand vous avez des doutes sur la crédibilité du processus et sur le. Vous exprimez aussi quelques inquiétudes sur de possibles tensions à l'issue de la présidentielle si on y va dans les conditions que vous avez décrites.
Bon, monsieur Amoussou a son avis, je ne peux pas l'empêcher de l'avoir. Mais une chose est sûre, l'expérience des législatives de 2019 est là et nous a montré que quand les élections se passent d'une certaine manière et quand il n'y a pas l'inclusion qui devrait y avoir, la suite, on l'a vu dans les événements qui ont suivi le 28 avril où nous avons été aux législatives. Ça, c'est des faits. Et l'expérience des autres pays aussi où des élections ont été exclusives ou n'ont pas été suffisamment inclusives nous démontre qu'il y a des risques. Il y a des risques. Et ça,
est-ce que c'est un message que vous lancez en direction de la Sénat et de la Cour constitutionnelle de bien travailler en examinant les candidatures?
C'est un message que nous avons, la société civile a de tout temps lancé depuis le début de ce processus, en alertant sur le risque pour que ce processus soit demeure exclusif comme on a eu à le connaître par le passé. Merci. Ça a été une alerte de tout temps et on a appelé dans toutes les déclarations que la société civile a eues, la plateforme électorale des OSC a eu à publier depuis le début de ce processus, a appelé le chef de l'État qui, maintes fois, a dit et a promis que le scrutin serait ouvert, que tous les candidats qui le souhaitaient avoir leur parrainage. Et on a appelé à ce qu'il concrétise ces propos-là.
Merci beaucoup, madame. Je suis désolée de vous interrompre. C'est la fin de cette édition du Grand Rendez-vous. Merci à vous.